Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez les histoires du soir avec Olivier. Et nous sommes ce soir déjà dans la 14e émission, en ce 16 mars 2017. Et ce soir, nous allons parler d'un ordre de la chevalerie médiévale, assez connu malgré tout par son nom, qu'on appelle les chevaliers teutoniques, et un phénomène géopolitique, pour nous dire, qui leur est rattaché, qui s'appelle l'Ordenstadt, c'est-à-dire l'état-ordre que ceci avait constitué au Moyen-Âge. Voilà ce que l'on va aborder ce soir. On va se replonger, évidemment, dans la fin du XIIe siècle, en pleine période des croisades. On va revoir dans un premier temps ce que ces fameuses croisades sont. Et puis, on verra également les aspects particuliers, bien sûr, de cet ordre donc des chevaliers teutoniques, ou plus connus aussi sous le nom des chevaliers porte-glaives, et de l'état-ordre qu'ils avaient constitué, l'Ordenstadt. Alors, pour commencer, pour faire simple, bien sûr, il y a la question des dates dans tout cela. Question des dates qui nous mène quand même sur une très longue durée historique, puisque l'ordre des chevaliers teutoniques est fondé littéralement en Terre Sainte, sous les murs de Saint-Jean d'Acre, pendant les croisades en 1190, c'est-à-dire à la fin du XIIe siècle. Et ça va durer très longtemps, l'ordre teutonique, en comparaison à l'ordre des Templiers, dont on a déjà pas mal parlé dans différentes émissions, puisque l'ordre des chevaliers teutoniques va se dérouler pendant à peu près six siècles, jusqu'en 1809, date à laquelle il sera, dans sa forme d'ordre classique, si on peut dire, dissous par Napoléon. Donc 619 ans d'histoire, c'est quand même tout à fait considérable. Un ordre donc fondé en pleine croisade, on va y revenir tout à l'heure, pour se terminer tout simplement en plein milieu des guerres napoléoniennes, en 1809, avec une dissolution plus certainement symbolique, bien sûr, par Napoléon Ier lors de ses conquêtes, européennes. L'Ordenstadt qu'ils ont créé, qui est un agrégat de possessions territoriales, on va le voir tout à l'heure, qui sont situés dans ce qui est à peu près aujourd'hui la Prusse et les États de la Baltique, on va y revenir dans un instant. Cet Ordenstadt, lui, va durer un certain temps aussi, puisqu'il sera fondé en 1224 par les Teutoniques, donc au début du XIIIe siècle, pour se diluer et, si je puis dire, s'agréger dans la création d'un État en 1525. Cet État, on verra tout à l'heure qu'il portera un nom assez connu, puisqu'il s'agira de la Prusse, tout simplement. Donc voilà à peu près les bornes historiques de notre questionnement de ce soir. Et cette histoire tumultueuse, bien sûr, va prendre ses racines, en effet, dans la cet événement tout à fait considérable hein, de l'histoire médiévale, du milieu de l'histoire médiévale, hein, qui va marquer ce que l'on peut appeler vraiment comme étant une confrontation entre l'Orient et l'Occident, hein, que sont les croisades. Hein. Alors, les chevaliers teutoniques, hein, donc évidemment, vu leur nom, à consonance essentiellement et majoritairement germanique, ces chevaliers teutoniques, bien sûr, vont naître, on l'a bien vu, pendant cette grande période des croisades, mais surtout, ils vont continuer d'exister bien après. Hein. Et c'est quand même ça qui nous intéresse ce soir, puisque à la fin des croisades, hein, les croisades qui quand même, hein, dans leur date ultime, commencent, hein, on le sait, le phénomène des croisades, avec la fameuse, le fameux appel à la croisade, proclamé à Clermont hein, par le pape Urbain II hein, en 1893. On a un début hein, de la période des croisades autour de 1893-1895 et on le sait, hein, tout cela se termine en 1291 hein, avec évidemment la prise de Saint-Jean d'Acre hein, et la fin des derniers états latins des états latins situés en Terre Sainte. Alors, dans cet énorme continuum historique, eh bien, on a bien sûr nos fameux chevaliers teutoniques. Alors, quelques rappels pour commencer, donc sur ces croisades. Alors, vous le savez, les croisades, il y en a donc à peu près dans un décompte, si je puis dire, rigoureux, 8. 6 qui sont vraiment des croisades à proprement parler, et les deux dernières, les 7e et les 8e croisades, que on connaît sous le nom des croisades de Louis IX, hein, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Alors, rapidement, bien sûr, les croisades, qu'est-ce que c'est hein, ben, tout simplement, dans ce monde médiéval européen, il y a principalement deux grandes structures qui émergent après la chute de l'Empire romain. On sait que le Moyen-Âge commence hein, au 5e siècle, à partir du moment où l'Empire romain s'effondre, hein, et où surtout l'ancien monde donc antique hein, va se diviser en deux morceaux. D'une part, un Occident latin fractalisé, avec différents États, on a parlé dans les émissions précédentes, qui vont se former en royaumes progressivement, hein, et qui est surtout l'univers des fiefs, l'univers latin occidental médiéval, et puis un Orient latin qui lui est beaucoup plus structuré, enfin un Orient médiéval, pardon, beaucoup plus structuré, hein, qui est ce qu'il reste de l'Empire romain, que l'on appelle l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire Byzance. Et cet empire romain d'Orient va se maintenir, lui, en tant qu'État, avec un empereur, hein, qui est en même temps une théocratie, hein, puisque bien sûr, l'empereur de l'empire romain d'Orient est aussi le chef de l'Église, hein, on parle de ce qui sera plus tard le monde orthodoxe, hein, par rapport au monde catholique latin occidental, et cet empire byzantin, eh bien, bien sûr, pas ici refaire, bien sûr, parce qu'on est dans une émission de radio, des descriptions géographiques, mais possède en gros tout ce qui concernait l'Asie mineure, hein, le Proche-Orient, et je tiens à cette expression de Proche-Orient, c'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire, donc, ce qui est actuellement le Liban, la Syrie, l'État d'Israël, etc., hein, que d'aucuns aussi appellent aussi Moyen-Orient, hein, et puis, évidemment, toute la partie Afrique du Nord, etc., etc. Tout cela est sous le contrôle hein, de Byzance pendant un certain temps. Mais voilà que cet empire byzantin va entrer en crise et de façon plus importante, hein, il faut mentionner que Byzance, hein, l'empire romain d'Orient, posséder le contrôle hein, de la Terre Sainte très important hein, dans ce christianisme médiéval en plein développement hein, de cette période-là, c'est-à-dire le contrôle de l'accès aux routes des pèlerinages vers Jérusalem principalement. Et voilà que, effectivement, eh bien, au XIe siècle, eh bien, tout cela se casse la figure, si on peut dire, puisque émerge hein, une nouvelle religion dans la région, la religion musulmane, qui va peu à peu conquérir tout un tas de territoires et faire reculer Byzance. Et voilà que Jérusalem est prise par ce qu'on appelle à l'époque les infidèles, et donc que la route des pèlerinages se retrouve bloquée. Byzance, l'empire byzantin, l'empereur, le Basileus, va alors demander des secours au pays donc de cet Occident médiéval. Occident médiéval qui va en profiter, bien sûr, et le pape Urbain II en tête, pour tout simplement reprendre le dessus, puisqu'il y a un éternel affrontement entre l'Orient, l'Occident latin et donc Byzance, et bien sûr pour tenter de reprendre le dessus et donc prêcher la première croisade. Pour tout simplement, non pas faire semblant, si je puis dire, d'aider Byzance, bien sûr, à reprendre le contrôle de la Terre Sainte, mais bien au-delà, tout simplement installer, et c'est quand même ça qui est très extrêmement important, toute une série d'États dits latins dans la région, et à commencer, bien sûr, par le royaume de Jérusalem. Cette croisade, donc, est prêchée à Clermont par le pape Urbain II, et l'expédition, donc avec tout un tas évidemment de barons occidentaux, donc Godefroy de Bouillon, etc., va se mettre en marche en 1099, et le but est évidemment donc de se rendre donc dans cette terre sainte occupée par les infidèles, de chasser les infidèles évidemment, et évidemment de reprendre le contrôle de Jérusalem. Alors, ça va être, comment dire, le fruit, le résultat d'un immense succès au départ, puisque bien sûr, en 1099, eh bien, en effet, Jérusalem va être conquise par les croisés et va naître ce que l'on va appeler le premier royaume de Jérusalem, qui va exister de 1099 à 1187. Ce premier royaume de Jérusalem va avoir dans son sillage toute une série d'États latins, justement, donc de présence de ces princes occidentaux donc latins, en plein cœur du monde oriental, qu'ils soient musulmans ou évidemment orthodoxes. Et ça, on le sait, ça ne va pas manquer que de provoquer énormément de troubles, de problèmes, ce qui fait que, comme vous l'avez bien compris, l'aventure des États latins donc au Proche-Orient sera de relatif courte durée, si du moins on se place dans un contexte d'inspiration, bien sûr, de la longue durée médiévale. Alors ces États latins, qu'est-ce que ça va être rapidement? Eh bien, quand on regarde la carte, et j'ai mis quelques cartes en ligne sur Facebook, le principal d'entre eux, le plus important, qui est le royaume de Jérusalem, avec capitale Jérusalem, donc les fameux lieux saints qui sont accessibles, bien sûr, désormais de nouveau aux pèlerins occidentaux. Au nord, le comté de Tripoli, donc ce qui est à peu près évoqué sous la forme du Liban actuel. Encore plus au nord, eh bien, ce qu'on appellera la principauté d'Antioche. Encore plus au nord, le comté d'Édesse. Et un petit royaume arménien de Séleucie qui sera situé sur donc la côte sud de ce qu'on appelle la Turquie actuelle, c'est-à-dire au nord de l'île de Chypre. Chypre, on en parlera rapidement, cette île donc située vraiment tout près de ce Proche-Orient, eh bien Chypre donc jouera le rôle jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'épopée des croisades, de base arrière des croisés, parce que c'est extrêmement pratique, on le voit tout de suite, bien sûr, pour relayer notamment les flottes qui donc déferlent dans cette région, qui va être quand même dans un état de guerre permanent, parce que vous l'avez bien compris, que progressivement les États musulmans tout autour vont être amenés à se fédérer. Et c'est ce dont on parlera. Donc cette première croisade donc va constituer tout cela. Hein. Et puis, va intervenir la seconde croisade de 1147 à 1189, hein, dont l'objectif, hein, va être de consolider donc toutes ses possessions. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que eh bien, le 2 octobre 1187, eh bien, Saladin, qui entre-temps était devenu le leader, hein, donc des musulmans, hein, si bien on dit des infidèles de l'époque, eh bien, va entrer dans Jérusalem. C'est terminé pour le premier royaume de Jérusalem. Et ensuite va se suivre à tout cela toute une série comment dire, de troubles. Alors, entre-temps, bien sûr, au niveau de la constitution des ordres de chevalerie, on a bien sûr les deux principaux ordres qui existent déjà à cette époque-là, donc avant 1190, hein, création donc des teutoniques qui nous préoccupent ce soir, ces deux principaux ordres étant les les ordres, comment dire, de hospitaliers, hein, de Saint Jean de Jérusalem, et puis, hein, bien sûr, l'ordre donc des Templiers, hein, on le sait, qui lui donc va perdurer pendant beaucoup moins de temps que celui qui nous préoccupe ce soir. Alors, toute cette période de troubles qui va suivre, eh bien, ça va être les autres croisades. La troisième croisade, de 1187 à 1192, hein, qui va être tentée de reprendre, hein, qui va être celle où on va tenter de reprendre Jérusalem. Hein, reprendre Jérusalem, et ce sera un échec, cette troisième croisade. La quatrième, de 1198 à 1204, hein. Donc, entre-temps, naissent évidemment l'ordre des chevaliers teutoniques. 1198 à 1204, on le sait, est un échec, puisque cette croisade-là n'ira pas du tout jusqu'en Terre Sainte. Hein. Elle ira tout simplement, elle sera détournée, hein, notamment manipulée par le doge Dandolo, hein, ce Vénitien qui, comment dire, va donc. Avoir pour intérêt de détourner la croisade des barons pour s'emparer tout simplement donc de Constantinople et construire là un éphémère empire latin, hein, qui va exister pendant à peu près une cinquantaine d'années, hein, et cette quatrième croisade d'ailleurs déclenchera un scandale puisque bien sûr elle aura été détournée. Hein. Alors la cinquième croisade sera celle qui va graviter autour de Philippe Auguste, de 1213 à 1221. Hein. Philippe Auguste, donc, qui va donc coordonner une expédition, hein, dont le but sera de prendre à revers, si on peut dire, les infidèles, en passant par donc l'Égypte. Ce sera un échec. Et puis c'est la sixième croisade de 1215 à 1244 qui, elle, est un succès, hein, puisque c'est la croisade dite de Frédéric II, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, hein, qui, lui, donc, va tout simplement réussir à reprendre Jérusalem, donc à fonder un nouveau royaume de Jérusalem qui va durer à pas très longtemps, de 1229 à 1244. Et ce deuxième royaume donc de Jérusalem sera aussi le fruit d'un compromis, hein, entre Frédéric II et donc les donc leaders donc arabes, hein, qui enfin musulmans pour le dire, je puis dire, qui eux vont donc s'allier en quelque sorte dans un compromis avec Frédéric II, ce qui entraînera l'excommunication de celui-ci. Puis ce sont les deux dernières croisades, les 7e et 8e croisades, menées toutes les deux par Louis IX, hein, c'est-à-dire Saint-Louis, de 1248 à 1254 pour la première, de 1270 à 1291 pour la seconde. La première est une tentative à nouveau de prendre à revers les infidèles, et ce sera un échec en passant par l'Égypte, hein, un peu comme avait fait son grand-père Saint-Louis, son grand-père, pardon, Philippe Auguste, et puis la deuxième, dans laquelle mourra Louis IX, hein, et qui était une tentative de passer par la Tunisie. Tout cela va nous mener jusqu'à cette fameuse bataille de Saint-Jean d'Acre en 1291, qui verra la fin, tout simplement, des États latins de Terre Sainte. Ce qu'il va rester, de la présence latine, ce qu'il va en rester, ça va être justement dans l'île de Chypre, avec évidemment un retranchement des derniers francs de la région. Entre-temps, tout va être balayé. En 1453, je le rappelle, c'est la prise de Constantinople par les Turcs, donc ottomans. Et puis, en 1461, c'est la fin de l'Empire grec de Trébizonde, vaincu par les Turcs. En 1571, enfin, c'est la bataille de Lépante. Bataille de Lépante, donc, qui verra la chute de Chypre, et donc du dernier bastion de retranchement de ce qui restait de toute cette époque de croisade. Voilà donc, mes chers amis, résumé en quelques 20 minutes, toute cette épopée des croisades, bien sûr, rapidement, puisqu'on ne peut pas entrer dans des détails relativement plus importants. Toutefois, il faut bien avoir à l'esprit que les chevaliers teutoniques se retrouvent au cœur de toute cette épopée, même si pour eux, elle commence seulement en 1190. Alors, l'intérêt... Alors, le premier grand maître de cet ordre teutonique est le chevalier Heinrich Walpott, qui est élu en Terre Sainte, qui fera bâtir une église et également un établissement hospitalier. L'intérêt particulier de l'ordre des chevaliers teutoniques, c'est, il faut le savoir, que c'est à la fois un ordre militaire, mais aussi hospitalier, c'est-à-dire d'aide aux plus démunis, d'aide aux pèlerins, donc malades, etc., etc. Donc c'est intéressant, ils ont une double fonction, alors que l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui lui va durer très longtemps, qui viendra après l'ordre de Malte, cet ordre-là, lui, va être principalement dirigé effectivement vers des aspects caritatifs, envers les pèlerins, et l'ordre des Templiers, on le sait, qui lui disparaît évidemment beaucoup plus vite, qui apparaît au XIe siècle et disparaît au début du XIVe siècle, 1307, 1314, on le sait, et bien cet ordre des Templiers, lui, est vraiment un ordre militaire. Mais durant toute cette période, quand même, on a les hospitaliers, les templiers et les teutoniques qui sont là comme une sorte de phalange, si on peut dire, donc chargés de défendre la Terre Sainte et de protéger les routes. Voilà ce que l'on peut en dire. Alors, l'aspect particulier de l'ordre donc teutonique, c'est évidemment son implantation territoriale. Son implantation territoriale en Europe, qui va avoir pour effet de se développer beaucoup plus. Tant que, bah oui, les teutoniques quitteront la Terre Sainte à partir du moment où toute cette aventure sera terminée, comme on le sait. Alors la répartition géographique, et j'ai mis une carte la page Facebook de cette émission. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser éventuellement des questions, soit en direct d'ailleurs, ou en différé, et que j'y répondrai. Je suis en train de regarder s'il y en a, mais je n'en vois pas. Alors, cette implantation géographique, évidemment, nous intéresse particulièrement parce qu'elle va se situer, eh bien, au nord géographique du fameux, ce que l'on appelle à l'époque le Saint-Empire romain germanique. Alors, d'une part, autour, pour la partie la plus au nord, de la ville de Königsberg, c'est-à-dire l'actuelle ville de Kaliningrad. Vous savez que c'est cette enclave qui est située entre la Pologne et la Russie actuelle, Kaliningrad. Eh bien, là, il y a donc un noyau important de ce fameux Ordenstadt qui est en devenir. Et puis, alors un peu plus si on remonte au nord, on a quelques liens avec les États baltes, et puis tout le reste, ben, ça correspond à peu près à ce que l'on appelle aujourd'hui le nord de la Pologne, avec les villes comme bien connues comme Danzig, c'est-à-dire Gdansk, et d'autres lieux. Tout cela forme cette Ordenstadt, qui a évidemment un intérêt économique majeur, puisque il est bordé par de grands ports sur la mer, sur la mer Baltique. Alors déjà, un intérêt évidemment économique de cette structure, et surtout, dès le moment que tout se termine, c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, que tout se termine en Terre Sainte, on sait très bien ce qui se passe. Les Templiers vont disparaître parce qu'ils étaient, ils gênaient évidemment, notamment sur le plan économique, considérablement certains royaumes, dont le royaume de France. On sait très bien toute l'histoire de leur dissolution, de leur arrestation organisée par le roi de l'époque qui avait décidé d'y mettre un terme, bien sûr. Et cette dissolution va faire que tous leurs biens seront transmis, transférés à l'ordre des hospitaliers. Donc ce qui va rester de tout cela, ce sera d'une part l'ordre des hospitaliers, dépositaire en quelque sorte, la dissolution des Templiers. Ils reprendront notamment de façon symbolique certains aspects de la croix pâtée templière. Et puis, de l'autre côté, les teutoniques qui, eux, vont se concentrer vraiment sur des possessions territoriales. Et donc sur le fameux Ordenstadt. Alors, ça va commencer bien sûr par une expansion de cet Ordenstadt. La description géographique que je vous ai donnée tout à l'heure est une description à minima. Puisqu'en gros, on l'a compris, cet Ordenstadt sera le noyau de ce que sera la Prusse plus tard. Mais en ce qui concerne les teutoniques, ceux-ci vont évidemment rapidement se répandre dans la région. Cet ordre teutonique donc va se répandre et de la façon suivante. D'une part, la Thuringe en 1200, le Tyrol en 1202, Prague et la Bohême en 1202 à nouveau, Liège en 1259. Une expansion évidemment, qui va se poursuivre dans des villes comme Thorn, Königsberg, on l'a évoqué tout à l'heure, 1255, Marienburg, 1280, qui deviendra à un moment donné la capitale de cet Ordensstadt. Et puis, il y a les rapprochements des différents ordres. En 1237, les chevaliers teutoniques vont fusionner avec les chevaliers porte-glaive. Et puis, ils vont se confronter à l'énorme puissance émergente de la Russie orthodoxe à l'est, avec la fameuse bataille du lac de Peipus, où ils affronteront Alexandre Nevski, le vainqueur de la Neva en 1242. Les teutoniques seront vaincus. Je vous rappelle que tout ça est admirablement illustré dans cet excellent film de Eisenstein, qui s'appelle, vous savez, c'est un concert scénario de cinéma, avec donc ce très beau film, donc qui s'appelle effectivement Alexandre Nevski, dans la musique de Prokofiev. Je vous recommande de le revoir. C'est un véritable chef-d'œuvre et ça évoque effectivement cette confrontation entre l'expansion de l'Ordensstadt vers l'est. Et évidemment la réaction des premiers tsars qui les ont contrés en 1242. Alors la grande césure de toute cette période, c'est 1291, puisqu'on a bien compris, il y a un début d'expansion territoriale de l'ordre des teutoniques en Europe pendant le temps où, en même temps, bien sûr, ils sont présents dans la Terre Sainte. 1291, marque, bien sûr, une césure, puisque c'est évidemment la fameuse bataille, la fin des États latins territoriaux sera totale. Alors, césure aussi, parce que les Templiers, éliminés par celui qu'on appelait le roi de fer, je vous le rappelle, vont eux complètement décliner dès cette date et disparaître, 1307, 1314, je le rappelais tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, les teutoniques, eux, ne vont cesser de se développer. Il faut bien comprendre que le Moyen-Âge, qui est une société d'ordre, ne l'oublions pas, va avoir donc ces deux grands ordres qui vont perdurer, les teutoniques au nord, avec les dates qu'on a données, on dépasse largement la fin du Moyen-Âge, on l'a vu, 1525, jusqu'à 1809 même, pour l'existence de l'ordre, et puis, de l'autre côté, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui hériteront des biens des Templiers et qui deviendront ce que nous connaissons encore aujourd'hui comme étant l'ordre de Malte. Alors, nous nous focalisons quand même de nouveau sur les teutoniques, bien sûr, et à partir de ce moment-là, bien sûr, c'est toute la période du développement de cet Ordensstadt qui va devoir tailler son existence, on l'a bien compris quand on regarde la carte où ça se trouve, entre d'un côté l'énorme expansion de la Russie orthodoxe qui est en plein développement, là, évoqué tout à l'heure avec Alexandre Nevski, et puis de l'autre côté les émergences de grands royaumes comme la Pologne, bien sûr, et puis bien sûr le Saint-Empire romain germanique, qui est la masse la plus énorme et la plus évidemment dangereuse, si on peut dire, pour leur existence. Alors tout cela va continuer, mais progressivement, la longue durée historique fait que, les fameux royaumes, même situés à l'est, dont on a parlé tout à l'heure, royaumes et empires, ne vont cesser de se développer, de s'affirmer. Et bien sûr, l'existence de cet état-ordre ne va pas pouvoir durer éternellement. Et les teutoniques vont essuyer une énorme défaite en 1410. Donc on se dirige vers la fin de la période médiévale. 1410, Et avec la fameuse bataille, et c'est un lieu où il y aura encore d'autres grandes batailles dans l'histoire, à Tannenberg, où eh bien, ils seront quasiment éliminés, à cette bataille dite de Tannenberg ou de Grunwald, par une coalition de princes à la fois de la Lituanie et de la Pologne, dirigée par Ladislas II Jagellon, qui va écraser l'armée teutonique, 13 000 morts quand même, un véritable massacre. Et là, à partir de là, bien sûr, c'est ce que les historiens, comment dire, reconnaissent comme étant donc le début du déclin de l'ordre des chevaliers teutoniques. Alors, l'Ordensstadt, tout ce qu'il en reste, va se replier autour notamment de Kaliningrad, c'est-à-dire Königsberg. Vous savez très bien que le nom de Kaliningrad est un nom qui date de la période évidemment soviétique, du moment où cette enclave prussienne a été annexée donc par les soviétiques. Quand on regarde une carte, on sait très bien, on comprend très bien pourquoi les soviétiques, comment dire, se sont installés là et à quel point ça pouvait être très utile pour les Prussiens et encore avant pour les Teutoniques, parce qu'il s'agit d'un port protégé sur la mer Baltique, donc à la fois un lieu géostratégique majeur et économique, bien sûr. 1525, nous arrivons à partir de la période où c'est effectivement la fin de l'Ordensstadt, non pas de la fin des chevaliers teutoniques, bien pas du tout, mais la fin de l'État-ordre qui va s'agréger autour de la création d'un royaume, d'une principauté, en tout cas dans un premier temps, que l'on appellera la Prusse, et qui aura son histoire. Donc c'est assez intéressant car cela montre que dans l'identité nord, du nord, en tout cas de ce que l'on appelle l'Allemagne actuelle, et donc de la Prusse, eh bien, on a en effet comme noyau de cette histoire donc ce que les chevaliers teutoniques, en tout cas, avaient constitué. Il faut bien imaginer que dans cette période de l'aventure européenne de l'ordre, donc après 1291, on a à la fois un aspect militaire, bien sûr, et on verra tout à l'heure comment fonctionnait cet ordre. Mais il y a bien sûr un aspect économique, bien sûr, puisqu'on a bien compris que ces villes sur le bord de la mer Baltique avaient un rôle très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'au nord, une partie de l'État-ordre, comment dire, taillait des croupières aux États baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, et que ces États sont entrés rapidement en conflit aussi, eux, avec l'État-ordre. On l'a vu tout à l'heure avec cette fameuse bataille de Tannenberg, de 1410, ils se sont alliés aux Polonais pour réduire la puissance de cet État, de cet Ordensstadt, pour que celui-ci finisse par disparaître. Et c'est ce qui s'est produit, puisqu'en 1525, c'est une principauté prussienne qui voit le jour et qui va ensuite vivre toute son histoire au travers toute son histoire au travers, comment dire, disons, de l'histoire des États européens de l'époque. 1809, on est en plein milieu des guerres napoléoniennes, et Napoléon va le 24 avril 1809, à Ratisbonne, en Bavière, prononcer la dissolution des chevaliers teutoniques. Ils ne vont pas disparaître pour autant, puisqu'ils vont, d'une part, subsister. Et l'ordre va se rénover intégralement à partir de 1929. Alors, une date très intéressante, puisque nous sommes à l'époque, bien sûr, dans la République de Weimar, après la Première Guerre mondiale. Et voilà donc un ordre donc, qui va perdurer, qui va exister. On pourrait imaginer qu'à partir de 1933, cet ordre aurait été récupéré par, comment dire, le triomphe du nazisme et d'Hitler. Pas du tout, Hitler tentera de s'en emparer, et néanmoins, l'aspect caritatif, l'aspect aide, l'aspect profondément humaniste de la de ce qui anime la philosophie de cet ordre sera évidemment totalement rejeté par les nazis et ils seront persécutés, vivront dans la clandestinité pendant toute la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il y aurait très certainement là des sujets fort intéressants d'études. Et on a bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, une définition de l'esprit de l'ordre tel qu'il est donc à cette époque-là. Et je cite cette phrase que je trouve relativement intéressante. Donc les teutoniques se décrivent aujourd'hui de la manière suivante. La véritable chevalerie n'est pas déterminée sous la forme d'une épée de combat qui est dépassée aujourd'hui, mais plutôt par l'engagement au Christ roi, la protection et la défense des victimes opprimées, méprisées et des nécessiteux. Cette attitude est la recherche de l'actuel frère, sœur et familier de l'ordre teutonique, fidèle à la devise d'aider et de guérir ensemble. Voilà ce que on donne comme définition. On est là vraiment dans quelque chose de profondément caritatif, de croyant aussi, bien sûr, parce qu'il y a question de Christ roi, mais de profondément caritatif. À l'heure actuelle, on compte à peu près 1 millier de membres de cet ordre. C'est assez intéressant. Moi, j'avoue qu'en préparant cette émission, j'ignorais que l'ordre des chevaliers teutoniques existait toujours officiellement. C'est que les Templiers, il y a de temps en temps des résurgences, mais n'empêche que le véritable ordre des Temples du Temple a vraiment disparu au XIVe siècle. Tout le reste ne sont que des résurgences diverses et variées. Dans le cadre des teutoniques, il y a vraiment une existence officielle, 1 millier de membres, 100 frères liés par 3 vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, 200 sœurs et 700 dits affiliés ou familiers ou marians, laïcs ou d'état ecclésiastique qui cherchent à entériner les efforts de l'ordre pour promouvoir son entreprise et réaliser ses idéaux. L'ordre a aussi le droit d'inclure dans sa gestion de province, donc des oblats, donc c'est-à-dire des aides en quelque sorte. Alors, voilà parcouru. Certainement en un temps, il en faudrait beaucoup plus pour en parler davantage, toute cette histoire. La hiérarchie de l'ordre des chevaliers teutoniques est tout à fait pyramidale, comme tous les ordres. Il comporte bien sûr à sa tête un grand maître, avec une chambre rapprochée de conseil et une chancellerie. Et ensuite, vraiment, on a un décalque, si on peut dire, de ce que l'on connaît déjà des Templiers, avec donc un grand maître assisté d'un grand commandeur, d'un grand maréchal, d'un grand hospitalier, d'un grand trésorier, d'un grand commissaire. Et ensuite, on a les divisions territoriale, évidemment symbolique, puisque aujourd'hui il ne s'agit plus du tout d'une structure étatique, avec un maître de la Germanie, un maître de la Livonie et un maître de la Prusse. Tout cela fait référence bien sûr aux provinces nordiques de cette structure. Alors l'ordre donc évidemment possède une spiritualité, bien sûr, on l'a bien compris. La fondation de l'ordre a été une réponse concrète à la situation du lieu et du temps. Il se considère comme placé sous la protection de la Vierge Marie, de Sainte Élisabeth de Thuringe et de Saint Georges. Aujourd'hui, on l'a bien compris, ce sont des activités de bienfaisance. On est dans quelque chose qui, effectivement, puisqu'on fait référence, bien sûr, à l'Église catholique, puisqu'il est question de saints, et le Saint-Siège a donné, Rome, à l'ordre, en reconnaissance de son travail, l'exemption confirmée encore, c'est-à-dire le privilège de subordination directe au siège Saint-Siège actuel, c'est-à-dire du pape. Alors la symbolique, chaque frère, donc une croix bien sûr, chaque frère se lie dans le signe de la croix pour toujours à l'ordre, la croix noire sur fond blanc est le symbole de la victoire du Christ sur les puissances des ténèbres et de la mort, je cite bien sûr. L'habit des chevaliers, c'était un manteau blanc frappé d'une croix noire. Hein. Le templier, c'est une croix rouge, hein, rappelez-vous. Certaines unités de chevaliers portaient un casque orné pour terrifier leurs rivaux. Les frères sergents, membres non d'hommes de l'ordre, portaient un manteau gris. Voilà ce que l'on peut rapidement dire. Je vous ai mis des illustrations montrant donc comment s'habillaient les membres de cet ordre. Hein. Et la particularité, et je crois qu'on pourra se diriger vers une conclusion là-dessus, hein, bah c'est que cet ordre, qui a été fondé donc en 1190, on l'a dit tout à l'heure, en plein tumulte des croisades, hein, a quand même été à l'origine, et je crois que c'est relativement unique, en tout cas dans l'histoire européenne, hein, a créé le noyau de ce que plus tard sera un État hein, qu'on appellera la Prusse. Hein. La Prusse, vous savez que l'Allemagne, hein, telle qu'on la connaît, est née en 1800... 1870, et avant, bah, c'était un agrégat d'États divers, hein, divers agrégats de différents États, il y avait la Confédération germanique, tout ça, hein, et la Prusse, hein, en tant que royaume, bah, bien sûr, a eu son rôle hein, dans tout cela. Hein. Voilà ce que l'on peut dire hein, de tout cela. Et pour conclure, quand même, et c'est intéressant, il faut citer hein, que parmi les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, qu'il existe en Pologne hein, un monastère fortifié de l'ordre teutonique, hein, datant du XIIIe siècle, qui est appelé Château de l'ordre teutonique de Malbork, qui a été bâti sur un site exceptionnel. Hein, et c'est intéressant de voir ainsi qu'un legs hein, de cette structure, hein, un legs de cette structure a pu exister et que bien sûr son inscription au patrimoine mondial de l'humanité est très intéressant puisque cela prouve en quelque sorte hein, que cet ordre de chevalerie hein, a pu passer, si je puis dire, du sable des croisades et des combats du sang des croisades, hein, qui n'étaient pas des tendres, hein, on le sait, à devenir un ordre caritatif et à se situer dans l'universel, sans doute d'une façon certainement beaucoup plus pérenne et beaucoup plus située dans le long terme, à la différence des Templiers qui, on le sait, hein, eh bien, disparaîtront entre 1307 et 1314, seront repris en quelque sorte par l'ordre de Malte, et on sait bien que c'est la croix de Malte, hein, je vous le rappelle, et donc la croix templière qui ornait hein, les fameuses nefs de Christophe Colomb, hein, qui en 1492 ont effectivement un jour réussi à trouver la voie des Amériques hein, pour une toute autre histoire. Voilà ce que nous pouvions ce soir dire de tout cela. Je vous remercie de votre écoute. Nous serons la prochaine fois courant avril, je pense fin avril, peut-être avant pour une prochaine émission, qui elle sera consacrée à tout à fait autre chose, puisqu'il s'agira d'une émission portant sur les aborigènes d'Australie. Je vous remercie. C'était donc Histoire du soir avec Olivier. Merci pour votre écoute. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions sur cette émission autant que vous voulez sur Facebook et notamment où je vous répondrai bien sûr sans aucun problème. Merci, au revoir et à une prochaine fois.